Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi.
L'une des façons dont nous avons de raconter ces merveilles est tout simplement d'être une lumière qui est en action. Et le titre du message de ce soir, alors que nous poursuivons la série « Christ, notre lumière », c'est « La lumière qui est en action ». Je précise tout de même, lorsque je dis l'une des façons, je ne suis pas en train de dire que cette série est une carte de resto où vous choisissez ce qui vous plaît. C'est un tout qui se mélange. Il n'y a pas « moi je suis plus témoignage », « non, moi je suis plus dans mon foyer », l'action, ce n'est pas trop mon truc. Non, sois un homme de terrain dans ton foyer. La série est un tout. S'il vous plaît, ne la dissociez pas. Dans la perspective biblique, il est impossible de parler de lumière sans parler des œuvres. Car les œuvres, vous pouvez retenir cela, car les œuvres sont le rayonnement de notre lumière. Et donc, il est important pour nous que la lumière que nous sommes soit en action. Pourquoi ? Parce que premièrement, la Bible ne dissocie jamais la lumière des œuvres. Et enfin, le but des œuvres est de glorifier Dieu. Et en fait, je pensais à cela et je me faisais cette réflexion que les œuvres mettent le projecteur sur Dieu, afin qu'il soit rendu visible et glorifié. Glorifié par notre vie et glorifié par les autres. Un passage que nous avons énormément cité, c'est le Matthieu 5, qui parle de « tout comme cette ville qui est placée sur une montagne qui ne peut pas être cachée », Jésus va dire ici au verset 16 que de la même manière que cette ville est placée sur cette montagne, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Jésus lui-même ne dissocie pas la lumière que nous sommes de notre façon de vivre. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus va dire à peu près la même chose en disant que c'est en portant beaucoup de fruits que notre Père céleste est glorifié. Et l'apôtre Pierre va reprendre la même idée dans 1 Pierre 2,12. Il va dire « Ayez une bonne conduite, je paraphrase, au milieu des païens, afin que là où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils rendent gloire à Dieu le jour où Dieu les visitera. » Je ne sais pas si on réalise que nos œuvres ont cette capacité d'amener les incroyants à glorifier Dieu le jour où Dieu, dans sa souveraineté, les visitera. Cela m'amène à dire ceci, que l'Église a la responsabilité de la réputation de Dieu sur terre. Elle a la responsabilité de la réputation de Dieu sur terre, et que cela plaise ou non, cela veut dire que l'image que les gens ont de Dieu est grandement dépendante de comment l'Église vit. Sans rentrer dans un cours de physique ce soir, j'aimerais donner ce principe. La lumière a un impact sur son environnement. Elle traverse l'espace et le temps. Saviez-vous que le soleil, les rayons du soleil, met environ 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Qui le savait ? Bon, on apprend des choses ce soir, c'est bien. Cela veut dire que lorsque l'on regarde le soleil, on le voit comment il était il y a 8 minutes. C'est-à-dire, sans vous faire peur, si imaginons le soleil exploser à ce moment même, nous le saurions 8 minutes plus tard. Donc dans 8 minutes, nous verrons si nous sommes encore vivants. Tu peux regarder ton voisin et lui dire, peut-être que nous sommes morts et nous ne le savons pas encore. Et c'est intéressant ce principe-là, parce qu'on voit d'une certaine manière constamment dans le passé lorsque l'on regarde à l'univers. Et c'est la même chose pour nous, qui sommes la lumière de Dieu. Parce que ce que nous semons par notre vie sera récolté soit durant notre vie, soit après notre vie, par des personnes qui seront au bénéfice de ce que nous avons semé. Par exemple, qui connaît Martin Luther, le réformateur, le père de la réforme protestante? Au XVIe siècle, si ma mémoire est bonne, il va rédiger ses thèses, 95, il me semble, thèses, où il va se lever contre, à l'époque, c'était le salut par les œuvres. Et donc, avec Bible à l'appui, il va démontrer que le salut se reçoit par le moyen de la foi. Au XVe siècle, XVIe. Et aujourd'hui, l'Église est au bénéfice de ce que cet homme-là a semé aujourd'hui. Notre croyance de le salut par la foi provient de cet homme qui un jour s'est levé. Parce que sa lumière a traversé le temps. On pourrait même aller plus loin. 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ environ, Abraham obéit à Dieu. Et aujourd'hui, que nous le voulions ou non, nous sommes bénéficiaires de la nouvelle alliance parce qu'un jour, Abraham a obéi. Donc ne méprisons jamais ce que nous faisons. Une lumière en elle-même brille. Aussi petite soit-elle, même si c'est une petite bougie, ça brille, il y a quelque chose. Je ne peux pas dire je suis une lumière et je ne brille pas. Ça, ce n'est pas de lumière, ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas de la lumière. Un autre point concernant les œuvres, c'est qu'elles attestent de l'authenticité de notre foi. Et les œuvres mènent notre foi à la perfection. J'aimerais lire avec vous Jacques 2, du verset 14 au verset 26. Jacques écrit ceci. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, en manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? » Il en va de même pour la foi si elle ne produit pas d'œuvre. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. » Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu connaître, homme sans intelligence, homme sans compréhension, homme sans sagesse, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. J'aime dire que la foi et le corps dans lequel les œuvres évoluent. Et donc, par conséquent, comme tout corps, ça grossit, ça grandit. Au début, c'est un petit truc, et ensuite, ça grandit. Ça prend plus d'espace, les œuvres grandissent, ça bouge en nous. Le thème, j'aimerais faire une courte introduction à la lettre de Jacques, parce qu'elle peut sembler compliquée, mais Jacques est très pragmatique. Si vous voulez savoir comment vivre votre vie chrétienne, lisez Jacques. Il n'y a pas plus concret. Le thème de cette lettre peut être résumé de la manière suivante. La foi authentique se démontre, et pour la vivre, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Si vous lisez Jacques 1, verset 1, il est dit que les destinataires sont les 12 tribus d'Israël dispersées. Ce mot est important parce que parfois, en fait, on passe à côté de cette introduction-là et qui pourtant nous donne des indications extrêmement intéressantes. Le peuple d'Israël était dispersé à cause de la déportation, à cause de la persécution. Ils étaient loin de la terre que Dieu avait promis au peuple. Et pourtant, d'une certaine manière, Jacques les invite à considérer comme un sujet de joie ces différentes épreuves auxquelles le peuple est exposé, car elles servent à faire grandir leur foi et à purifier cette foi-là. Je pourrais dire ceci, que Jacques, dans cette lettre, est en train de dire que les circonstances, aussi mauvaises soient-elles, ne sont pas une excuse pour ne pas produire de bonnes œuvres. Ne sont pas une excuse pour ne pas être responsable. Ne sont pas une excuse pour justifier le fait que je juge mon frère et ma sœur. Ne sont pas une excuse pour justifier ma colère ou mon manque d'écoute. Et c'est pour cela qu'il va nous donner quelques conseils pratiques dans des domaines dans lesquels nous devons nous mettre en action en tant que lumière. Parce que la foi qui est authentique n'est jamais seule, disait également Martin Luther. Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi ne vient jamais seule. Cette lettre, à caractère moral, rappelle le livre des Proverbes dont l'intention est de conduire le peuple de Dieu de manière pratique. Et ce que je vous invite à faire chez vous, on ne va pas le faire là, mais lorsque vous lisez Jacques, mettez en parallèle le sermon sur la montagne que Jésus va prêcher à partir de Matthieu 5, il me semble. On y trouve énormément de parallèles. Et parfois, tout comme dans les livres des Proverbes, on a l'impression que l'auteur passe un peu du coq à l'âne. C'est un peu difficile de le suivre, mais il suffit juste de garder en tête qu'il ne s'éloigne jamais de sa thématique principale, qui est « la foi se démontre ». Et que nous avons besoin de la sagesse pour la vivre. D'ailleurs, il va dire dans Jacques 3,13 « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreinte de douceur et de sagesse. » Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai besoin de la sagesse de Dieu pour vivre l'Évangile. J'ai besoin de la sagesse de Dieu pour apprendre à mieux aimer. J'ai besoin de la sagesse de Dieu pour savoir comment me comporter avec mon frère et ma sœur. J'ai besoin de la sagesse de Dieu pour maîtriser ma langue. Et à ce sujet, c'est ma conviction personnelle. Au vu des points que Jacques soulève, je soupçonne que la lettre a été écrite à La Réunion. Ça, c'est ma conviction personnelle, et vous allez voir pourquoi. Donc, dans ce long passage que nous venons de lire, nous apprenons que la foi porte en elle-même des œuvres. Elle est le cadre dans lequel ces œuvres-là évoluent. Et c'est fondamental de comprendre cela. Parce que les seules œuvres qui ont une valeur aux yeux de Dieu, ce sont les œuvres qui sont le produit de la foi. De cette foi qui est un don de Dieu pour répondre à sa grâce. Parce qu'en dehors de la foi, en dehors de Jésus-Christ, la Bible dit que même nos actes de justice sont souillés à ses yeux. C'est pour cela que personne ne pourra dire devant Dieu un jour « Oh, tu sais, j'ai été généreux, j'ai été patient, j'ai été une bonne personne. » selon les critères de la justice divine, ça passe pas. Aujourd'hui, beaucoup de programmes tentent d'améliorer l'homme. Mais l'évangile est totalement différent. L'évangile n'améliore pas l'homme, l'évangile transforme l'homme. L'évangile n'améliore pas l'homme, l'évangile recrée l'homme. Nous sommes une nouvelle création en Christ. Et donc tout ce que nous faisons à partir du moment où nous sommes un enfant de Dieu, Dieu le voit au travers du prisme du sacrifice de Jésus. Ce qui donne aux actions que nous faisons un poids éternel. Ce qui donne aux actions que nous faisons un bénéfice pour celles et ceux qui profiteront des fruits plus tard. Et cela encourage le respect et l'honneur de ceux et celles qui ont vécu avant nous. Parce qu'aujourd'hui, si l'Église, par exemple, est là, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont semé. En tant que lumière du monde que nous sommes, dans quel domaine est-ce que nous pouvons agir, nous pouvons briller, nous pouvons progresser? J'aurais pu soulever plusieurs points, j'ai juste pris trois points qui, à mon sens, sont assez problématiques ici à La Réunion. Et c'est pour cela que je crois que Jacques a écrit sa lettre à La Réunion, parce que ce soir, ce qu'on va survoler, c'est que premièrement, nous devons être responsables, nous devons être impartials, c'est-à-dire pas de favoritisme, et nous devons, la catégorie au-dessus, maîtriser notre langue. Je suppose que les personnes qui toussent se sentent concernées. On est tous, faut le dire, dans le même bateau. Certains un peu plus que d'autres, mais on y est tous. Regarde ton voisin, dis-lui, première chose, sois responsable. Jacques 1,14 nous dit ceci. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Jacques 4, verset 1, « D'où viennent les conflits et les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Ce soir, on va essayer d'enlever quelque chose de notre vocabulaire, « oui, mais ». Il n'y a pas de « oui, mais ». La Bible dit « oui, mais pas ». C'est bon ? Il est coutume aujourd'hui, dans notre société en plus, de se déresponsabiliser. C'est jamais de ma faute. Si je suis comme ça, c'est à cause parce que je suis un taureau. Hein ? J'ai pas tous les signes en tête, un bélier ou je sais quoi. Si je suis comme ça, c'est parce que... Non, si tu es comme ça, c'est pas... Le problème est en toi. Et le royaume de Dieu, ce qui est extraordinaire, le royaume est contre-culture. Et le royaume nous invite à prendre nos responsabilités. Le problème n'est pas lié aux circonstances, le problème est lié à mon cœur. Si je pète un câble, même si quelqu'un était le moteur de mon pétage de câble, c'est toujours moi le problème. Et donc, comme je le disais, les circonstances ne sont pas une excuse pour justifier mon irresponsabilité. Rappelons-nous ceci. Ça m'a choqué. Lorsqu'il y a eu la chute, Adam, en gentleman, va accuser sa femme. Et effectivement, sa femme l'a conduit à chuter. Mais au final, aux yeux de Dieu, Adam a désobéi un commandement de Dieu. Je Je vous donne un exemple de ma propre personne, pour ne viser personne, justement. Avant, il y avait une phrase que je disais, qui était à la mode aussi, c'est ce fameux « garde ton cœur ». Du coup, lorsque je blessais quelqu'un, je lui disais « tu sais, garde ton cœur, fais attention à l'offense ». Et c'est vrai. Parce que la personne sera responsable de son cœur devant Dieu. Par contre, le jour où je me suis mis à lire sérieusement sa parole, ben, étrangement, j'ai vu des avertissements concernant ceux qui causent l'offense. Lui est responsable de son cœur, il aura des comptes à rendre. Par contre, moi, je suis responsable d'avoir été une occasion de chute pour ces personnes. Donc maintenant, je m'efforce, c'est pas facile, de ne plus trouver des excuses. Tu étais blessé par moi, ok, pardon. Tu attends, mais c'est pas grave. Non. Ne le dis pas, tu peux le penser, mais ne le dis pas. Et cela me faisait penser à ça. Paul va dire... dans Éphésiens 4, il me semble, ne donnez pas accès au diable. Et je vous invite à lire le contexte de ce passage. Comment est-ce que nous donnons accès au diable? Par notre comportement, par notre jalousie, par nos querelles, par nos divisions, par l'amertume, par le fait que je ne pardonne pas, par le fait que je suis une occasion de chute, par le fait que Lot ne veut pas se relever de sa chute, et ainsi de suite. Et nous donnons accès au diable par notre attitude. Au lieu d'agir de manière mature, je suis désolé, je te pardonne, et on avance. C'est ce que Jacques appelle dans sa lettre « Vivre le commandement divin, l'amour du prochain ». Deuxième chose, tu peux regarder ton voisin également, c'est « Soyons impartiaux ». Donc, ne faites pas preuve de favoritisme. Jacques dit ceci, « Mes frères et sœurs, dans Jacques 2, 1-5, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés. » Je vais lire ça après. « Le favoritisme emprisonne la foi. » Et je réfléchissais à ça, et il y a un principe que peut-être vous entendez souvent dans le monde, c'est « Entourez-vous des gens qui vous tirent vers le haut. » Il y a une part de vérité là-dedans. Forcément, si je veux progresser par un domaine, je ne vais pas fréquenter quelqu'un qui est aussi nul que moi. Mais pourtant, Jésus fréquentait des personnes qui n'avaient rien à lui apporter. Ni les apôtres. Pourquoi ? Parce que dans le royaume de Dieu, nous avons tous à apprendre des uns des autres. Parce que le royaume est une histoire de famille. Pas de personnes individuelles où je fréquente uniquement les personnes qui ont quelque chose à m'apporter. Et Jacques dit ceci, et ça m'a frappé cette semaine lorsque je méditais, le verset 5, il me semble, lorsqu'il dit « Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? » Autrement dit, Dieu a choisi des personnes qui n'avaient rien à lui apporter. Celui qui fait preuve de favoritisme, en fait, a oublié qui il était quand Dieu l'a appelé. Et enfin, soyons maîtres, regarde ton voisin aussi, maîtres de notre langue. Il y a un peu plus de monde qui réagit, c'est bien. Jacques 1, 26. Jacques est vraiment concret, je l'ai dit. Hein. À un tel point, il n'y a même pas besoin de commenter. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion et son valeur. Le mot religion ici, on pourrait dire de la sorte, c'est sa spiritualité, sa vie chrétienne, ses pratiques, n'a rien. Parce que certains, surtout à La Réunion, se prennent pour des réalisateurs. Je n'ai pas besoin que tu réalises des films sur moi. Raconte pas d'histoire sur moi. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Et j'aime ce que les fils de Corée vont dire dans le psaume 45. Il va dire « Oh, que mon œuvre soit pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Alors, je trouve ça tellement magnifique. Lui aussi, il devait être à La Réunion. Que notre langue serve à l'édification. L'Église que nous sommes. Parce que parfois, malheureusement, on peut manquer de responsabilité. Oui, mais je suis pécheur. N'empêche que Jacques dit que ces choses-là ne doivent pas être parmi vous. L'apôtre Paul, de la même manière, ces choses-là ne doivent pas être parmi vous. Parce que vous êtes une lumière. Donc il y a une progression dans ces choses-là. Le commérage, les mensonges, les rumeurs, les suppositions ne devraient pas avoir la place parmi nous. Et Jacques, qui est très sérieux, va dire ceci. Si ça peut aider à calmer nos ardeurs, il va dire ceci dans Jacques 2,13. Parlez et agissez comme des personnes appelé à être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. C'est un peu le parallèle avec ce que Jésus va dire dans Matthieu 7, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. » Si tu es tenté à écrire des scénarios sur ton frère ou ta sœur, rappelle-toi qu'un jour, on comparaîtra tous devant Dieu. Pas pour est-ce que nous irons en enfer, mais par contre, nous aurons des comptes à rendre pour ce que nous auront fait. La langue est un énorme fléau. Et Jacques est assez direct. Il va dire que d'une même source ne peut pas sortir de l'eau salée et de l'eau sucré. Douce. Notre langue révèle à quelle source nous sommes branchés. Il peut arriver, nous chutons. Mais si c'est un style de vie, il y a un problème. Et d'ailleurs, ça me fait penser quelque chose que j'ai oublié de souligner. La foi authentique se démontre par les œuvres. Mais Jacques 1 nous dit ceci. La foi produit la persévérance, c'est-à-dire l'endurance. Ce n'est pas une œuvre ponctuelle qui démontre la réalité de ma foi. Ce sont des œuvres qui durent dans le temps. Ce n'est pas parce que j'ai fait une bonne action, là, ben ça y est, ben c'est bon, j'ai mon passeport. Non, je continue. La foi est une... Je continue dans ces choses-là. Je continue et je continue par la grâce de Dieu. Et j'aimerais conclure de cette manière, en disant que premièrement, nous chutons tous d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et alors que le groupe peut venir, s'il vous plaît, j'aimerais prier, et mon appel là va être assez sérieux. Donc écoutez bien. J'aimerais prier pour ceux et celles qui galèrent dans ces points-là que j'ai abordés. Vous vous déresponsabilisez tout le temps ? Vous avez un pleasing people, un favoritisme, ou encore, vous êtes devenu expert dans le commérage. Des choses comme ça. Et j'aimerais l'élargir aussi, tout simplement, à toutes celles et ceux qui ont une addiction quelconque. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Jacques 1, 5, 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. En lisant ce verset attentivement et dans le contexte de toute cette lettre, le mot douter ici n'est pas l'incrédulité. Ce n'est pas je demande, mais il ne faut pas que je doute. Non. Le mot douter, dans la lettre de Jacques, est associé à un cœur partagé ou à une conduite instable. D'ailleurs, il va le dire, verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Et beaucoup galèrent avec des choses, non pas parce que Dieu ne peut pas délivrer. On est vrai ce soir. Mais parce que vous ne voulez pas changer. Combien de fois j'ai dit, Seigneur, change-moi de ci, change-moi de ça. Mais au fond de moi, je suis trop attaché à cela. Et donc, je viens appel après appel, et toujours pareil. Et ce soir, j'aimerais prier avec l'équipe pour celles et ceux qui luttent dans des choses que nous avons partagées ce soir ou dans un sens plus large, addiction. Mais posez-vous cette question. Est-ce que je veux vraiment changer? Parce que Dieu donne sa sagesse. Dieu va nous dire comment vivre, quoi faire. Peut-être il va falloir que tu quittes ta secte de commère. Peut-être qu'il va falloir que pour un temps, j'ai dû le faire, et ben je me force jusqu'à ce que ça devienne une habitude, parce que au début c'est jamais facile, mais voir des gens que je. Ben, tout simplement pour apprendre à les connaître, pour parler avec eux. Peut-être que je dois être responsable ce soir. Si je pêche. Si je lutte avec ça, ce n'est pas... Il faut arrêter de se trouver des excuses. Parce que j'ai du mal à croire qu'un jour j'arriverai devant Dieu. Tu sais, si j'ai fait ça, franchement, j'ai un doute si je pourrais parler devant lui. Mais dire, ah, Seigneur, si j'ai fait ça, c'est à cause de ça. Mais au final, c'est moi qui rendrai des comptes. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que vous voulez changer ? Parce que ce que nous avons besoin de réaliser en tant qu'enfants de Dieu. Et Paul dit ceci. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce qu'on a besoin de réaliser, c'est que le Saint-Esprit est en nous. Et qu'on a toutes les capacités divines, la force divine pour briser ces choses-là dans nos vies. Alors, si vous êtes concerné, quand vous voulez, prenez pas trop de temps non plus, avancez sur le devant et l'équipe va prier pour vous. Si vous devez demander pardon à des personnes, faites-le. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit vous dirigera, mais faites-le. Si vous devez vous séparer de ce qui cause votre chute, faites-le. Et croyez-moi, lorsque vous demandez la sagesse de Dieu sur comment vivre ma vie chrétienne, il la donne. Et Jacques rajoute ceci, et il la donne sans faire de reproches.